Je parle tout bas pour ne pas me réveiller.
Accroche-toi bien.
Ça suffit.
Dans tes rêves.
C'est impossible.
Vous êtes en retard pour le thé. Seulement si tu crois que c'est impossible. Dans tes rêves.
Dans tes rêves, il y a deux jeunes types chevelus qui se baladent à poil sur la grande muraille de Chine. Les badauds, les mitraillent avec leur smartphone en floutant le sexe à l'image. Mais qui sont-ils ces post-hippies sans chemise ni pantalon, ni sac à dos, ni un sou en poche vu qu'ils n'ont pas de poche? Qu'importe, les vagabonds célestes poursuivent leur route en quête d'une chambre d'amis, d'un bout de pain ou d'un sourire en échange d'un coup de main à poil. Ils rêvent d'une nature sauvage, dans un monde nu et culotté à égalité, dans le donnant-donnant sans aucun costume du pouvoir sur l'autre. Dans tes rêves, des gens de toutes les couleurs se pressent dans une drôle de taverne, perdue sur une île grecque. Là-bas, on y mange du couscous, des nems, de la moussaka et un steak frites, à la même table des cousins et des frangines du monde. Dans tes rêves, il y a le pays de ton enfance et celui de l'utopie. Il n'y a pas de morale à la fin, tout est possible, tu deviens un super-héros de la vraie vie. Alors, si on écoutait un peu plus ce fameux rêveur qui sommeille en nous.
Dans tes rêves,
France Inter,
Laurence Garcia.
Et pour cette nouvelle rêve partie de rencontre d'imaginaire dont je me suis inspirée, mes deux premiers invités sont des routards à poil, enfin pas toujours, voyageurs, réalisateurs, ils se disent scientifiques de l'humain, écouteurs d'histoire, partisans du dépouillement joyeux, ce sont les nus et culottés de la série documentaire sur France 5. Bonsoir Nance et Moutz.
Bonsoir.
Bonsoir.
Alias Nance Thomassé et Guillaume Mouton. Bon, j'imagine qu'on vous l'a fait à chaque fois, mais les gens quand ils vous invitent, ils s'attendent à ce que vous soyez habillé, en fait. Culotté, et là vous avez des gros pulls.
Là, ouais, c'est sûr qu'on est en décalage.
De toute façon, dans la série, vous n'êtes pas toujours à poil. Hein.
Non, c'est le début des voyages qui se fait tout nu, et c'est vraiment, dans la série, ça dure 5 minutes.
Ouais, c'est ça en fait.
La grosse aventure, c'est après une autre forme de nudité qui nous attend avec les gens qu'on rencontre. Et si ça nous met quelques minutes à se mettre à poil sans les vêtements, ça met un peu plus de temps pour trouver cette nudité avec des inconnus, ouais, des gens qu'on ne connaît pas et qui nous ouvrent leurs portes, leur maison.
Le dépouillement heureux, joyeux, ai-je lu? On connaissait la sobriété heureuse de Pierre Rabhi, qui est un de vos maîtres à penser aussi. C'est bien ça, le dépouillement joyeux, se mettre à nu?
On s'aperçoit que d'une part, ça allège, parce que bien souvent, et nous on en a fait l'expérience au début dans nos voyages, on partait chargé. Qu'on partait de sac à dos, qu'on avait blindé de tout un tas d'affaires qui, au fur et à mesure des kilomètres, se révélaient inutiles, ou en tout cas trop lourdes à porter et à en assumer la responsabilité au vu de ce que ça nous apportait. Et on s'est aperçu en s'allégeant de ce qu'il y avait dans notre sac à dos, en arrivant jusqu'au point de ne plus avoir de sac à dos, de sac de couchage, rien du tout, plus d'argent, qu'il y avait encore beaucoup de choses qu'on portait,
bien
et
sûr.
C'était nos armures, nos protections, nos jugements, nos non pas celui-ci, nos filtres. Et ça, bon sang, mais c'est bien plus lourd qu'un sac à dos.
Ouais, c'est clair. Voyageons léger pour rêver un petit peu plus haut avec également notre troisième invité, animateur, explorateur des cuisines du monde. C'est le Globe Cooker de Canal+. Aujourd'hui, il a laissé tomber le passeport pour le Pass Navigo et il part à la rencontre des communautés étrangères de Paris pour la série Doc, toujours sur Canal et Paris du Globe Cooker. Bonjour, bonsoir,
bonsoir
Fred
Laurence.
Chesneau. On parlait justement d'armure sociale. Chez les cuisiniers, il y a la toque, hein. Il y a le tablier qui est souvent d'ailleurs un signe extérieur de pouvoir sur l'autre aussi.
Les secrets de cuisine aussi.
Ouais,
jalousement gardé.
C'est ça. Alors j'ai fait un petit clin d'œil dans mes rêves à votre île grecque fétiche où vous avez un petit resto là-bas.
Absolument. C'était le rêve de mes 50 ans.
Ah voilà. Bah voilà.
Je m'étais dit, voilà, 50 ans, j'ai envie d'avoir mon resto enfin.
Avec des menus très cosmopolites. Hein. Je ne sais pas s'il y a des nems là-bas en Grèce que vous proposez, mais me semble-t-il.
Oui, c'est un peu ma marque de fabrique. C'est que moi, mon ADN, c'est d'aller à la rencontre des autres, de cuisiner avec eux. J'ai cette chance d'avoir parcouru le monde entier. J'ai fait près de 35 documentaires à travers le monde. Et toujours avec cette recette d'aller cuisiner, entre guillemets, les protagonistes de ces pays. Et il est clair que j'ai un bagage, j'ai un héritage, j'ai plein de dons qui m'ont été faits en termes de recettes, de techniques, et je crois que j'aurais eu tort de ne pas les mettre en scène dans mon restaurant. J'essaye en tout cas d'alimenter le cercle vertueux de toutes mes explorations, et c'est un petit peu l'aboutissement.
Alors, en commun, les uns et les autres, d'abord, je suis ravie de provoquer cette première rencontre, hein, pour vous, dans la vraie vie, cet imaginaire de l'autre et de l'ailleurs. Notre émission s'appelle Dans tes rêves. Alors, avec vous, Nancy Mutz, pour votre série Nu et culotté, vous, c'est concret, hein, parce que toutes vos rencontres, ça part toujours d'un rêve de gosse, un peu délirant, et genre même pas peur, cap, on va réaliser ce rêve.
Ouais, à chaque fois, on se donne un objectif... déluré, drôle ou touchant, en tout
déjanté.
Cas déjanté même parfois, qui est souvent en lien avec le répertoire de l'enfance, de rencontrer quelqu'un d'assez extraordinaire ou de vivre une activité qu'on vit pas dans son quotidien, et ça nous donne un objectif. Et au-delà de nous motiver, de nous mettre en chemin, c'est que ça nous donne aussi à explorer tout un monde. Quand on a eu envie de faire l'ascension du Mont Aiguille dans le Vercors, bah ça demandait de trouver du matériel, donc d'aller voir des gens qui étaient dans le milieu des sports nature. Et à chaque fois, c'est un peu comme vous faites avec la cuisine. Nous, ça nous amène dans un univers différent, avec le prétexte d'aboutir et de vivre quelque chose de particulier à la fin de notre aventure.
Oui, un objectif malgré tout. Mmh. Mais ce côté Paris, joueur, on le retrouve aussi chez vous, Fred Chenou, il y a une marque de fabrique aussi chez vous. C'est d'ailleurs, on le voit bien, ce petit sourire là, un peu d'enfant, ce rire bienveillant d'ailleurs, hein, ça se cultive aussi de rester...
Moi je me nourris de l'étonnement que je peux avoir des autres. Ouais. Et je pense qu'il y a une réciproque qui se met en branle. Mais je pense que c'est le principe de toute rencontre, c'est la découverte, et qui dit découverte, c'est d'être émerveillé, étonné par l'autre. On peut résumer ça de la curiosité, ouais. Mais ouais, c'est ça qui m'anime jusqu'à présent. Et j'ai encore cette curiosité, entre guillemets, d'enfant, et le jour où j'aurai plus cette curiosité, on sait jamais, eh bien j'arrêterai tout, je ferai autre chose.
Ouais, donc ça se cultive aussi quand même, mine de rien.
En tout cas, faut y croire, vraiment.
On parlait tout à l'heure de la vraie nudité, quand vous dites, voilà, nous on part léger. On se rencontre vraiment mieux, on rencontre vraiment mieux l'autre quand on déboule avec un pagne à moitié à poil, passer la gêne, l'étonnement ou le sourire ou la curiosité. Vous avez l'impression qu'on se rencontre mieux sans l'apparat, justement, sans le code social, en faisant tout casser, en cassant tous les codes.
En tout cas, pour nous, oui, c'est clair. Et de se mettre dans cette nudité, dans ce dépouillement, dans cette vulnérabilité matérielle, tout d'un coup, le lien à l'autre devient primordial. Et on se rend compte que l'indépendance, c'est un vieux mythe qui tient pas beaucoup quand on n'a plus rien. On se rend compte qu'on est surtout interdépendant et que sans la relation, on n'est pas grand-chose. Et puis là, on va se mettre, comme disait Mutz, à découvrir des nouveaux métiers, des nouvelles façons de voir le monde, des fois très éloignés des nôtres, mais avec toujours cette curiosité. Parce que sans cette curiosité, il n'y a pas de relation, et sans relation, il n'y a pas de voyage.
Le fameux donnant-donnant aussi, l'écologie humaine, dont vous parlez. De toute façon, Fred Chenou, vous aussi, dans vos pérégrinations, il y a ce côté, je donne un coup de main, je mets la main à la pâte, je ne viens pas qu'explorer, voilà.
C'est clair que c'est pas sens unique, une rencontre. Enfin, on est là pour s'apporter mutuellement. Moi, j'ai cette chance d'être cuistot à la base, donc... Pour moi, c'est un sésame, c'est une baguette magique. Mmh. C'est fantastique de dire à quelqu'un qui est diamétralement opposé dans ma façon de vivre, dans ma culture, à tout niveau, on a un point en commun, c'est de cuisiner. C'est magique. Et c'est en ce sens-là où la cuisine est un langage universel, et je n'hésite surtout pas à en user et à en abuser.
Style. Vous, quelque part, il y a un petit peu de... Même si c'est des grands mots, résistance de l'imaginaire, mais voilà, on est dans les réseaux sociaux. Vous, là, c'est les réseaux humains, véridiques. On parle de business de l'aventure. On parle des émissions de télé-réalité Top Chef. Il y a ce fameux pas de côté, même souvent, on utilise souvent cette expression un peu pour tout et n'importe quoi, mais... Quand même.
Mais là, c'est vrai où il y a de la résistance, c'est que le jour où Nu et culotté est né, c'est quasiment à peu près le jour où nous, on a été diplômés en tant qu'ingénieur en génie civil.
Oui, on en parlera ça.
Donc il y a tous les copains qui arrivent et qui disent « bon bah vas-y, on se lance maintenant, on se met à travailler et tout ça ». Et vous les gars, qu'est-ce que vous faites ? Ben, nous, on a envie de se mettre à poil et partir sans argent. Je me souviens très bien, même ma mère, qui m'aime beaucoup, quoi, comme son fils, qui croit en moi. Ce jour-là, quand même, a atteint sa limite. Elle m'a dit, mais chaton, qu'est-ce que j'ai loupé dans chaton. Ton éducation?
Je t'ai payé une école d'ingénieur et tu veux... Je peux la comprendre.
Et du coup, c'était ce truc-là où nous, on se sentait vraiment profondément seuls avec cet élan de vie qui était irrésistible pour le coup. Ça, on ne pouvait pas résister à ce qui bouillonnait en nous et qu'on a laissé jaillir dans cette aventure, dans cette première aventure.
Allez, sans nu et culotté et patoqué ce soir, voilà pour la partition lyrique jusqu'à minuit. Vous postez vos songes aussi sur notre page Facebook Dans tes rêves. La rêve partie du dimanche soir, mitonnée par le gang des rêveuses. Marie-Hélène Fauquet, la réalisation. Nadia Chougui, la préparation. Muriel Pérez pour la programmation. Et ce soir, la technique, c'est Anne-Laure Cochet. Belle soirée.
Laurence Garcia, Dans tes rêves.
Closed my door, forgot my key. Missed my bus in the pouring rain. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Burnt my toast and lost your number. Cut my finger, spilled my beer. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Had a chat and left my hat. Ate my dog and walked my cat. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. Put your stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Stockings in my purple boots. What if I don't get over you? Called the cabbage, threw the garbage, asked for help and got some help. It's been the usual Sunday with the flu. And I just can't get over you. I put your stockings in my purple boots. Over you.
C'est You Delis sur France Inter.
Hey ya, hey ya, hey ya, ya, hey ya, hey ya, ho.
Wouh! Alors comme d'habitude, on part sans vêtements, sans argent, on a seulement deux couteaux et puis
on a nos petites caméras.
Avec un rêve un peu particulier, d'aller chercher de l'or en Suisse. Parce qu'il paraît qu'aujourd'hui encore, en Suisse, dans les ruisseaux, dans les fleuves,
on peut trouver des pépites ou au moins de la poussière d'or.
Dans tes rêves.
Dans le rêve, les nuits culottées dans le Semoots, sérieusement, vous avez trouvé de la poussière d'or pour de vrai là en Suisse ou...
On a trouvé des pépites, ouais.
Des pépites.
Belles pépites.
D'accord. Alors, comme à chaque fois, on revisite l'imaginaire de l'enfance de... Bon, pour vous, c'est pas très très éloigné, remarquez, de nos invités, avec Globe Cooker, qui est également là, en studio, Fred Chesneau. Je vais commencer par vous, Nancy Moutz. L'un est fils ou petit-fils de menuisier, ai-je lu. Voilà, avec une maman aussi prof, qui aimait bien plutôt le camping. L'autre a grandi aussi dans un milieu rural, paysan. Est-ce que l'un et l'autre, vous avez été élevés justement dans des valeurs de décroissance, peut-être pas avec des parents nudistes, hein, mais voilà, avec un regard critique sur la société de consommation aussi.
Alors c'était plus que des valeurs, c'était notre vie. Moi j'ai grandi dans une maison que mon père a retapée, donc je me souviens le sol c'était de la terre battue, on mangeait sur des tonneaux, des vieux tonneaux, c'était vraiment notre quotidien quoi. Ensuite, cette liberté qu'offre la nature. Je pense que tous les enfants, quand ils voient une forêt, un arbre, ont envie d'aller jouer, courir autour, faire des cabanes. ça aussi, c'était pas tant des valeurs, c'était notre quotidien, notre manière de jouer. On jouait avec ce qui était là.
Terrain de jeu déjà, hein, parce qu'on parlait de jeu.
Je me souviens, j'adorais par exemple courir dans mon village tout nu, mais j'avais 3-4 ans. Quoi.
Ce qui agaçait un peu les... quoi, mais...
ouais, c'est ça. Ce qui agaçait les voisins. Ouais. Mais ouais, c'était notre manière de vivre. Ouais.
Donc des valeurs quand même ont été transmises par, par papa et maman. Quand
et,
même.
Et effectivement, on a infusé dans un environnement dans lequel il y avait plus que une optique de décroissance, par exemple, parce que ça peut avoir une notion politisée. C'était plus une forme de bon sens paysan. Il y a des plures de carottes, on en fait du compost pour alimenter le jardin qui redonnera des carottes. Juste, on se débrouille avec ce qu'on a, et ce qu'on a, ça inclut aussi les gens autour. Oui. Je vais pas acheter une échelle si mon voisin en a une et que je peux lui emprunter pour 3 jours. Donc c'est...
On pratiquait déjà, à la limite, le copartage, l'intelligence collective sans même mettre ces mots-là. En fait. Exactement.
Ouais. Donc aujourd'hui, on redécouvre des choses qui sont millénaires dans nos campagnes. Et c'est ce qui nous plaît aussi dans nos voyages, c'est d'aller voir comment tout un chacun a au fond de soi ce bagage culturel de l'humanité, du bon sens, du partage des ressources, du partage des connaissances, pour qu'en fait la vie soit plus simple et à moindre coût.
Ouais. Et ça, c'est ce qu'on a découvert, qui se passe naturellement. Je me souviens, à 6 ans, quand ma maison a brûlé, on n'avait plus rien. Je me suis retrouvé à poil, nu et culotté, mais en mode à l'aventure, quoi, avec toute
sans
la
toi,
famille.
Ouais.
Sans toi, et naturellement, tout le village autour s'est collecté pour nous offrir des vêtements, à manger, on nous a même offert une maison. Et à 6 ans, j'ai déjà goûté, en fait, à la force du collectif, la force de l'être ensemble, de la solidarité. Et c'est vrai que c'est... Moi, j'en garde un super bon souvenir. C'était terrible, d'un côté, l'événement, la maison qui brûle, mais de l'autre, il y a eu le cadeau de la solidarité. Et je crois que nu et culotté, c'est comment est-ce qu'on peut obtenir le cadeau de la solidarité sans passer par la case de la maison qui brûle, quoi. Est-ce qu'on peut réveiller cet être ensemble
avant qu'il ne soit trop tard?
Avant qu'il ne soit trop tard. Ouais.
Comment vous les écoutez? Vous êtes d'une autre génération, vous êtes né en 68, Fred Chenot, un papa cheminot, c'est ça?
Je m'amuse toujours à dire fils de cheminot communiste, mais oui.
Oui, mais c'est bien, ça campe un homme, hein, mine de rien.
Pardon?
Ça campe un homme, fils de cheminot communiste.
Oui, c'est vrai, ouais, effectivement, le pitch est donné. Mais non, justement, ça fait partie de ma construction, parce que qu'est-ce que ça veut dire être fils de cheminot communiste? Déjà, c'est pas comme ça qu'on va parcourir le monde, déjà, mine de rien. Et du coup, cette envie, très vite, quand j'étais en âge de voyager, j'ai vraiment envie de dépasser les frontières. Et puis, je me suis aperçu que, à quel point le monde était beau. Enfin, je parle de ça. C'est un petit 30 ans, tout ça, pour moi.
Oui, mais ce qui est drôle, c'est que là, il parlait de, c'est la génération d'après, du sens du collectif, de la société du collectif, tout ce qui,
à l'époque,
tout ce qu'en 68, on pouvait vendre sur les slogans.
Mais ouais, c'est là où c'est assez amusant d'avoir cette vision à la fois complémentaire et inversée.
Ouais.
Mais en tout cas, aujourd'hui, on parle effectivement. Alors, on a le covoiturage, il y a plein de noms. Le vivre ensemble, ce fameux vivre ensemble.
Ça peut être un peu tarte à la crème aussi.
C'est clair
aussi,
que, à travers ma nouvelle émission, Les Paris du Club Cœur,
on en parlera tout à l'heure.
J'ai vraiment voulu mettre le doigt là-dessus. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire?
Rencontrer ces communautés étrangères à Paris aussi. Les nus et culottés se baladent. Vous parliez tout à l'heure de cadeaux, de la nature, de l'entraide, de la solidarité. C'est ce qui s'est passé ce jour-là. Vous n'étiez pas si loin. Là, vous étiez en Suisse.
Il y a du beurre, il y a de la moutarde là-dedans, voilà. Il y a des cornichons.
Dominique et Alain ont un théâtre de prévu ce soir, et du coup ils nous confient leur maison.
Bon escavage, et bon courage.
J'ai tellement d'admiration pour ces gens qui, après un jour de nous connaître, décident de nous laisser la maison, leur clé.
Le frigo.
Oh, putain, ils nous connaissent pas.
I'm giving so much.
Vous chantez toujours dans vos programmes Nancy Mousse, là, c'est quoi, c'est...
De plus en plus.
C'est un moyen d'expression de la joie, donc on l'utilise comme plein
bien.
D'autres. Quoi, ouais.
Non, mais honnêtement, c'est rare, là, quand même, des gens qui vous laissent un frigo plein, les clés de leur appart, de leur maison
Et
en
ben,
Suisse.
Pas tant que ça.
C'est vrai?
Pas tant que ça. Plus on chemine, plus on s'aperçoit que c'est régulier, que dans un voyage, ça nous arrive une, peut-être deux fois, peut-être davantage. Et d'ailleurs, une fois, ça nous a... Je crois que la fois où ça nous a le plus marqué, c'était à Paris.
Pourquoi les Parisiens? Ben
parce que justement, c'était un voyage où on cheminait vers Paris, c'était notre objectif final pour aller vivre un bivouac sur les toits parisiens. Et tout le long du trajet, les gens nous disaient « Oh, mais n'allez pas à Paris, ceci, cela, les Parisiens, etc. »
Oui, bien sûr.
Et donc, on est allé rencontrer les fameux Parisiens arrivés à la nuit tombée pour trouver un hébergement. Et on a rencontré une jeune dame avec qui on a bien discuté. Ça a duré un petit moment, une petite heure, mais... pas de quoi faire confiance outre mesure, puisqu'on reste des inconnus les uns
pour
les autres.
En plus, vous étiez habillés, là, pour le coup.
Là, on était habillés, oui,
quand même. Fin du voyage.
Ouais.
Et elle avait des rendez-vous. Au bout d'un moment, elle est partie en disant, bon, les gars, je suis désolé, il faut que j'y aille. Je vous laisse mes clés. Le digicode du bas de l'immeuble, c'est temps. Je reviens ce soir à 8h. Faites comme chez vous.
Ouais, mais de toute façon, quelque part aussi, vous déminez les tabous, parce que la nudité, la mendicité, il y a aussi un petit peu ça. Hein. Vous jouez aussi avec ces thématiques-là. Donc, ça fait peur.
Mais bien sûr. J'avais déjà fait ces cauchemars de me lever, d'arriver un jour au travail en pyjama. Et je crois que c'est un rêve assez commun.
Oui, universel.
Et qui fait peur, en fait, parce que je crois qu'on bâtit pas mal de notre sécurité sur notre matériel, en fait. Voilà, la maison, c'est hyper important. Un moyen de transport, de l'argent pour subvenir à nos besoins, la nourriture. La question, c'est qu'est-ce qui se passe quand il n'y a plus cette sécurité-là matérielle, quoi.
Ouais.
Et ben c'est là que le shift, il doit y avoir ce shift pour passer sur une autre forme de sécurité qui est la sécurité relationnelle, quoi. On va l'appeler comme ça. Et sans ça, c'est juste pas possible de faire ces voyages. Hein. Y a eu des fois où on n'a pas trouvé l'hébergement chez l'habitant, soit parce qu'on s'y prenait trop tard, soit parce qu'on n'était pas au bon endroit. Ça devient très très vite compliqué et même dangereux.
Il y a des jours où ça marche pas toujours. Là, vous êtes toujours en Suisse. Et je crois que vous tentez d'appeler un commissariat de police. Écoutez la suite.
En fait, on venait vous rencontrer, vous, personnellement, pour vous parler, en fait, pas tant en tant que policier, plutôt en tant que... qu'individu, si après le service, vous auriez l'envie de nous héberger chez vous, qu'on passe un temps, qu'on apprenne à se connaître, qu'on boive un café, quelque chose comme ça.
Ouais, alors écoutez, là, c'est un commissariat de police, donc si vous avez besoin de la police, c'est une chose, si c'est pour se faire des amis, je suis désolé, vous n'avez pas la bonne adresse.
Bah, elle mérite d'être claire, hein. Il n'est pas commode à ce policier. En même temps, c'est un peu culotté d'appeler un commissariat de police pour vous faire des potes dans ces moods. Ils ont d'autres choses à faire.
Quand on est dans la rue et qu'on a besoin de trouver un hébergement, toutes les portes sont bonnes à tenter. Et ça nous est arrivé déjà de pouvoir dormir dans un commissariat de police. Donc, ce n'est pas parce que ça n'a pas marché cette fois-ci qu'il faut lâcher l'affaire.
Alors, ce qui est drôle aussi, c'est quand vous n'êtes pas devant les caméras, dans la vraie vie, comme on dit, même si on est dans la vraie vie aussi dans vos voyages, je sais pas quel est l'un des deux qui vit justement dans le copartage, dans une yourte ou un bus.
C'est
lui.
Ouais, c'est lui. C'est celui qui est là. Ben oui, en fait, ces voyages, ils nous ont tellement amenés à creuser et à découvrir de belles choses dans l'humain qu'on a eu envie, parce que quelque part, on est dans des démarches très proches avec Nance, on a eu envie de vivre ça plus largement au-delà de cette vie nomade. Mm. Et donc d'intégrer ça, de savourer ça aussi dans une vie sédentaire. Et aujourd'hui, notamment par le fait de vivre en habitat participatif et de vivre aussi dans des espaces plus réduits, donc un peu comme quand on est avec son sac à dos. Mais on retrouve à la fois ces valeurs, cette créativité qui est nécessaire pour répondre à certaines problématiques. Et ça donne cette sensation pour un voyageur d'être toujours dans un état de voyage. On reste dans une vie sédentaire à être à rayonner dans quelques kilomètres, mais on est obligé de garder cet œil ouvert, de garder cette ouverture à l'autre et à soi et à ce qui se passe pour pouvoir rebondir plus facilement. Et ça, le voyage est une école incroyable.
Rester nomade dans sa tête aussi. Avant de vous cuisiner tout à l'heure, Fred Genet, le Globe Cooker, comment vous écoutez justement les valeurs véhiculées par leur voyage à eux, nus et déculottés ou culottés d'ailleurs.
C'est assez rassurant. On est pas tout à fait de la même génération et je me dis bon ça va.
Ça va quoi?
On se dit ça va, je me sens vraiment en phase avec mes deux nouveaux amis et effectivement toutes ces notions de copartage, de vivre ensemble, je pense que ça me touche et ça me concerne autant qu'eux et je me dis j'ai pas lâché l'affaire quoi.
J'ai pas lâché l'affaire. Eh ben on en reparlera avec le Globe Cooker tout à l'heure dans sa cuisine à lui. Ah.
Seigneur, quand c'est pas non.
L'amour, c'est mieux quand c'est oui, ça c'est sûr. C'est le groupe Mosla sur France Inter. Et ce soir, nous visitons les utopies, les rêves de nos trois invités exceptionnellement. Le Globe-Cooker Fred Cheneau et les nues culottées documentaristes voyageurs Nan Semouts.
Buenos dias.
Bonjour l'ami, d'où viens-tu?
Ah, vengo de France.
De France.
Quiero ver.
Je voulais voir comment était un champ de patates au Pérou.
En el Pérou, et...
Eh bien, tu peux nous aider si tu veux. Vraiment? Les amis, voici notre nouveau paysan. Cette pomme de terre est un mâle. Celle-ci est une femelle.
Non. Il y a des patates femelles et des patates mâles. Et là, je vais terminer ma journée gourmande par ça. Voilà. C'est un œuf de canard, il est tout chaud. Et c'est un œuf dur, pas comme les autres, parce qu'à l'intérieur, il faut savoir une chose, c'est qu'il y a un embryon de canard.
Voilà, comme ça. Vas-y.
J'y vais ?
Oui.
Allez, go.
Pour prendre des forces, il faut que tu goûtes ça. Regarde, ça colore les dents. On râpe la noix d'arec et on en met sur une feuille.
Ok, donc là, des petits copeaux de noix d'arec. Ça, c'est de la chaux.
Il faut que tu chiques. Ça va te donner plein de force pour monter aux arbres.
Bon. Je suis désolé, sorry. I'm sorry. Je ne sais plus vraiment comment. Je peux pas. C'est la merde, c'est... Moi, j'ai choisi mon camp. C'est avec les femmes dans la cuisine.
Comment ça, les femmes à la cuisine? Faites gaffe à ce que vous dites en ce moment.
Je vais vous dire, Laurence, ça n'a rien du tout de sexiste que je vais vous dire, mais je suis convaincu, et je suis allé le vérifier, la cuisine est une affaire de femmes. Rien de sexiste, je vous le garantis, sauf que ça veut dire quoi? La vision de l'homme en cuisine, c'est une vision très occidentale. Oui. Faut quand même pas se leurrer. Mmh. Si vous prenez tout le reste du monde, qui fait la bouffe, qui s'occupe des gosses, qui va faire le marché, qui va récolter, qui va pêcher, c'est les femmes.
C'est bien, t'en sors bien.
Donc ça reste une affaire de femmes, malheureusement.
Mmh. Ils font quoi les hommes pendant ce temps-là?
Bah ils bouffent et
franchement, je veux pas tomber dans la caricature et souvent, ils en rament pas beaucoup. Quoi.
Et il en a vu du pays, hein, des non-rameurs, oui, aussi.
Ouais, mais ouais.
Bon. Là, c'était un extrait de différentes aventures culinaires visitées par notre réalisatrice Marie-Hélène Fauquet, Globe Cooker sur Canal. C'est quoi cette chic-là? Vous avez craché, là? C'était quoi?
Je crois que c'était au Sri Lanka. C'est un petit... Ouais, c'est pas une petite drogue, mais un truc qui permet de... d'oublier un peu le quotidien. Mais sauf que c'est pas bon.
Alors vous, ce qui est drôle quand même, parce qu'on parlait de Nan Semouts qui ont fait une école d'ingénieurs, finalement, qui ont préféré prendre la route à poil plutôt que d'aller dans le formatage des algorithmes et des codes. Vous, Fred Cheneau, vous évoquiez votre père, voilà, cheminot, et en même temps, vous avez fait aussi des études d'économie.
Ouais,
donc, comme
ouais,
quoi, les uns et les autres...
C'était un truc, une erreur de jeunesse. Non, je plaisante. Non, bah, j'ai fait vraiment
ingénieur et économie, au final,
économie,
pour finir sur les routes.
Et du coup... j'ai fait ça, mais je voyais bien que j'étais pas du tout heureux. Et bah après, c'est quoi ces rêves? Bah c'est de dire à un moment donné, bah non, ça me plaît pas.
Dire non, tout. Non à quoi? Une logique de carrière.
Non, logique de carrière, conformisme. Ça répondait pas du tout à l'avenir que je voulais. Et bah après, c'est pas du courage, parce que le courage, je crois que c'est de rester comme ça, c'est de rester dans son ancienne fonction. Et tout le monde me disait, quand j'ai plaqué mon job pour devenir cuistot et ouvrir une école de cuisine, c'était il y a 20 ans, tout le monde me disait, oh, mais quel courage, Fred, j'en reviens pas. Mais pas du tout, je me disais, mais le courage, c'est de rester, c'est de se regarder dans la glace le matin. et ça a été tout le contraire.
C'est marrant, parce que ça fait sourire Nan Semouts.
Bah oui, il y a un côté où c'est beaucoup plus confortable de se sentir vivant dans quelque chose qui certes peut être risqué, monter un business, un resto, partir sur la route tout nu, mais on découvre des ressources en soi qui sont beaucoup plus rassurantes que dans nos histoires, nous d'être étudiants ingénieurs et au bout d'un moment de se sentir plus du tout à notre place, à côté des copains qui étaient vraiment là où il fallait pour eux. C'était très bien pour eux, mais pour nous, c'était pas notre place.
Alors Fred Chenu, quand vous montez cette école là de cuisine, hein, à l'époque, il y a plus de 20 ans, on n'était pas dans la vogue.
Pas du tout. Sans me vanter, j'étais vraiment des tout premiers à monter une école de cuisine à Paris. Enfin, une école de cuisine.
Avec cette notion de cuisine du monde qui allait devenir un label bien plus tard.
Après, l'un ne va pas sans l'autre. C'est-à-dire que, entre-temps, j'avais eu cette chance de voyager, de m'imprégner de plein de cultures, passionné de bouffe. Et là, un peu néophyte, mais j'avais l'assurance, en tout cas, et je me faisais confiance sur le fait que oui, je pouvais transmettre tout ce qu'on m'avait délivré, appris pendant mes pérégrinations à travers le monde.
Mais avec l'originalité de faire voyager vos élèves.
Alors, ça, c'est bien pas, sûr, voilà. L'idée, en fait, il faut replacer ça dans son contexte. À l'époque, moi, mes premières clientes, c'était je dis clients parce que j'avais beaucoup de femmes, des femmes qui étaient nées en 68 comme moi, et je me suis très vite aperçu que la génération des femmes nées en 68, c'était un peu une génération sacrifiée, en sens où leur mère mettait un point d'honneur, surtout à ne pas leur apprendre la cuisine. Alors, ma chérie, je me suis pas fait chier pour t'apprendre
à devenir une
femme au foyer.
Ouais,
et du coup, ces filles-là, arrivant à la trentaine, il leur manquait des briques, c'est-à-dire qu'elles avaient envie de recevoir, elles commençaient à avoir un petit intérieur sympa et tout, et elles n'avaient pas le mode d'emploi pour recevoir. Donc là, j'arrivais un peu cuistot pompier pour un peu colmater tout ça, et l'idée, c'est de dire surtout ne surfe pas sur les recettes de maman. Est-ce que tu vas toujours te prendre le mur?
C'est-à-dire
qu'en
gros,
mais la blanquette, ça vaut pas celle de maman, machin. Mmh. Et je lui dis, écoute, affranchis-toi de ça, prends la tangente et mise sur la cuisine du monde. C'est-à-dire que le plat du pauvre ou le plat national à 12 000 bandes de là, va devenir un plat sublime dans l'assiette de que tu vas servir à tes amis.
Ouais, ouais.
En rajoutant à cela que vous servez par exemple un tom kakaï ou un curry vert. Si vous vous plantez un peu sur tel truc ou tel truc, c'est pas grave, il n'y a pas de référent comme on pourrait l'avoir sur une choucroute ou une blanquette de veau. Donc voilà, je pense que ça permet de décomplexer et du coup de surfer sur la désinhibition et d'y aller, tout simplement.
On le sait, la cuisine, c'est le lieu idéal pour parler de tout et de rien, pour se confier. Vous en êtes rendu compte dans ces moods, dans vos pérégrinations, où on se retrouve à un moment donné sur une bonne table de bois. Et là, les langues se délient tout en pensant la bouche pleine.
Ah oui, complètement. Nous, on a deux lieux favoris pour échanger.
Oui.
C'est la table et les voitures.
Les voitures.
Dans les voitures, on regarde dans la même direction. Pendant 2-3 heures, on parle, on échange. On sait que peut-être on ne va jamais se revoir. Et donc, il y a ce moment assez extraordinaire, au sens où ça n'arrive pas souvent, qu'on rencontre quelqu'un pendant 3 heures sans peut-être se revoir jamais et avec rien d'autre à faire que parler. Donc, il y a cet endroit-là. Et puis, effectivement, la table, une fois avoir cuisiné un bon repas, des fois, c'est nous aussi qui cuisinons pour nos hôtes. Ça, c'est bon quand on peut faire ça. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, c'est d'avoir un donner-recevoir. Et oui, c'est des moments privilégiés, c'est clair.
La cuisine, l'on parle de choses graves aussi, légères parfois. Là, vous n'êtes pas au bout du monde, Fred Chenu. Vous êtes à Cergy-Pontoise et vous rencontrez ce jour-là deux jeunes réfugiées syriennes.
Quand vous étiez à Alep, vous cuisiniez aussi?
Non, just help.
Donc ça veut dire que tu ne cuisines que depuis que t'es arrivée ici en France?
Ouais.
Et toi, Sama, à Alep, tu cuisinais?
Non.
Tu cuisines que depuis que t'es arrivée ici en France?
Ouais.
Mais alors, toutes les recettes, comment tu les as apprises?
En WhatsApp avec ma mère.
C'est l'application par téléphone, c'est ça?
Oui. Ma mère dit fais comme ça et moi, étudier.
Ouais?
Ouais.
Et quand vous êtes arrivées ici toutes les deux, qu'est-ce qui vous a manqué le plus?
Ma famille.
Et après la famille, qu'est-ce qui vous manquait le plus?
La cuisine. Mais la cuisine, on peut l'apprendre. Oui. Alors que la famille, on ne peut pas la faire venir.
Et oui.
La cuisine, on peut la prendre, mais la famille, on ne peut pas la faire venir. Les mots sont forts, hein, Fred Chenu.
Je me suis aperçu que ça, notamment en faisant mes explorations culinaires à Paris, je me suis aperçu que finalement...
À la rencontre des communautés étrangères.
Voilà, le principe, c'est ça. J'explore les communautés étrangères de Paris, tout ça par le prisme de la cuisine. Et très vite, je me suis aperçu que on parlait plus que de recettes que tu dis. On touche du doigt des problématiques d'intégration, d'immigration, en quoi la cuisine peut être un remède au déracinement. Et il est clair que la cuisine est primordiale dans la construction, la reconstruction d'une personne qui vient d'arriver en France. On parlait de ces réfugiées syriennes. Elles ont tout perdu. Tout perdu. Il leur reste une chose, pas précisément elle, parce qu'elle dit qu'elle savait pas cuisiner, mais c'est ce besoin viscéral de renouer avec sa cuisine. Et pour la petite histoire, dans le camp de réfugiés où elles étaient, alors elles n'étaient plus dans le camp de réfugiés quand j'ai fait mon tournage, mais quand elles sont arrivées, elles étaient dans une base nautique. Et plein de gens ont décidé de ne plus s'alimenter parce qu'ils avaient plus leur repère. C'était pas une grève de la faim, mais ils étaient perdus, ils trouvaient aucun goût au poulet rôti et frites, et il fallait absolument renouer avec ce goût de la Syrie, toute leur culture. Et ils n'avaient de cesse qu'en arrivant de dire, ok, j'ai mes recettes, il faut que je trouve l'épicerie, et c'était de prendre un bus, de faire une heure de bus pour trouver enfin une épicerie syrienne ou libanaise, et enfin de pouvoir revivre.
Ouais. Ou quitte à appeler sa mère au téléphone, sur WhatsApp,
qui dans restait, le meilleur des cas.
Ouais, forcément, ces programmes-là sont pas anodins, les vôtres, Fred Cheneau, et vous, Nancy Muntz, derrière concept de dépouillement heureux, de rencontrer l'autre, dans des époques où on parlait de mieux vivre ensemble, un peu tarte à la crème. Il y a une démarche aussi humaniste derrière, soit les blagues de potache qui n'en sont pas, et ça résonne, forcément.
Ah oui, moi, puis nous, on a été très surpris de voir que notre démarche nous a amené là, parce que à la base, c'était vraiment voilà une blague potache, un délire de deux copains qui veulent délirer en France. Notre premier objectif qu'on s'était donné, c'était de partir donc de la Drôme, donc de partir tout nu, sans rien, de se fabriquer un pagne, etc., et d'avancer, d'aller à Paris et d'essayer de toucher notre icône. D'un côté l'homme sauvage et de l'autre côté l'homme hyper mondain avec sa sortie en boîte de nuit, en costume cravate et en décapotable rouge.
C'est comme ça que vous le voyez, l'homme mondain.
Non, mais c'est un cliché, quoi.
Un beau contraste, on voulait partir à poil et sans argent de la Drôme pour arriver à Paris en décapotable rouge, costard cravate et sortir en boîte de nuit.
Et au fur et à mesure de répéter cette expérience, on a été profondément surpris par ce qu'on a rencontré d'un point de vue humain. On s'est aperçu combien arriver justement avec cette approche de curiosité réelle et saine et vulnérable aussi de l'autre, qu'en fait il y avait des trésors qui se situaient dans cet espace entre les gens. Et aujourd'hui, oui, c'est une source d'inspiration, d'enseignement qui est colossale. Là, d'entendre les dires de ces deux jeunes femmes, ouais, ça remet à sa place. Ouais. Mm. Et puis ça nous permet de réaliser, à nous qui avons la chance de vivre à côté de nos proches, de dire, ben, est-ce que moi aujourd'hui j'honore la relation avec mes proches ? Je ne suis pas sûr de l'honorer autant que ça l'est réellement important au fond de moi.
Mm. Il y a un temps pour tout, Fred Cheneau. Là, vous aviez eu envie justement de déposer les valises pour aller juste au bout de la rue chez nous.
Je pense que c'était nécessaire parce que, effectivement, comme tu le disais, ça remet les choses à sa place. Et l'idée, c'est de dire, on vient sur le vivre ensemble. Ouais. Tout le monde, tous les politiciens disent le vivre ensemble. Mais c'est quoi le vivre ensemble? J'essaye de montrer que c'est pas si compliqué que ça. Alors surtout que là, on a plus l'excuse de dire ah là là, mais il faut prendre un billet d'avion. Non, on est à Paris, il suffit juste un ticket de métro. Et après, c'est juste d'être curieux, de s'intéresser à l'autre, de pousser les portes d'une gargote, de parler à son voisin, de se faire inviter. Parce que moi, je me suis aperçu que c'était très facilement possible de se faire inviter chez quelqu'un juste en tapant sur l'épaule de sa voisine de table. Et je dis à tout le monde, je suis pas un surhomme, je suis pas un héros, je suis quelqu'un de lambda. Et si ça marche pour moi, ça peut marcher pour tout le monde. Mmh. Et là, je me dis, vous vous rendez compte, quelle chance on a, quelle chance d'avoir autant de communautés, autant d'immigrés. Eh ben, foncez, c'est ça notre patrimoine, c'est ça notre culture.
Dans tes rêves, as-tu peur de voir les étoiles ? Je peux te montrer comment les atteindre.
Des étoiles, des rêves et des utopies avec trois invités ce soir. Le Globecocker Fred Cheneau et les explorateurs voyageurs nus et culottés Nancy Muntz. Messieurs, il est bientôt minuit. C'est l'heure de notre dernière séquence imaginaire. Et comme à chaque fois, comme à chacun de mes invités, je vais vous demander pour de vrai de fermer les yeux. Allez hop, vous vous plongez dans votre noir intérieur, le micro est devant votre bouche, vous allez me répondre les yeux fermés. Je commence par vous, Fred Cheneau. Dans vos rêves les plus fous, si vous pouviez inviter à la même table, là-bas, là, dans votre resto en Grèce, à la même table, les pires ennemis du monde, pour qu'ils fassent enfin la paix, qu'ils papotent, ou alors à la limite les plus grands héros de votre jeunesse, ce serait qui ?
Ce serait... Ah, ce serait Christophe Colomb. Ouais. Déjà, pour lui montrer que, mon Dieu, grâce à lui, toute notre cuisine
a été fortement épicé.
Non, bah attendez, vous enlevez Christophe Colomb, ça veut dire qu'on fait le deuil de la tomate, de la vanille, du choc, du cacao, de l'asperge, de la courgette, de la dinde, de
la pomme de terre.
De la pomme de terre, bien
ouais,
sûr.
C'est vrai qu'il reste plus grand-chose.
Donc vous imaginez quelle tristesse, on en serait resté à nos viandes grillées et notre sempiternel pain farine de blé. Ouais, j'aimerais bien l'inviter.
Et vous lui servez quoi à Christophe Colomb alors, dans votre resto en Grèce là-bas?
Eh bien, je mets en scène tous les produits qu'il nous a fait découvrir. Mm-hmm. Bah ouais. Et puis je lui fais faire un tour du monde parce que quand même, voilà, je m'appelle pas Christophe Colomb, mais voilà, un petit explorateur.
voilà. Un globe cooker avec Christophe Colomb. Les yeux fermés dans ces moots, dans vos rêves les plus fous. Là, vous pouvez aller vous débarquer où vous voulez, dans un lieu interdit, une cité interdite, Maison Blanche, je ne sais où, à poil, nu et culotté, pour voir comment l'autre réagit. Ce serait où ? Tout
en
est possible.
En ce moment, j'ai envie d'aller à la Maison Blanche et d'aller rencontrer Donald Trump.
À poil.
À poil, et lui dire, viens Donald, on parle un coup là. C'est trop là pour toi ce qui se passe, viens, allez. On va se balader à poil.
J'ai pas du tout envie de voir Trump à poil.
Non,
hein,
mais
c'est
sans caméra,
ça sera pas filmé.
Sans caméra, on part ensemble. Et puis, ah ouais, j'ai envie de...
Quelle horreur.
J'aimerais rencontrer cet homme au-delà des carapaces et de la violence qui émane dans les médias. J'ai envie de rencontrer son cœur, en fait.
S'il en a un.
En tout cas, tout ce qui nous anime dans ces voyages, c'est de faire le pari qu'il y a un cœur qui bat dans chaque être humain. Et j'ai envie de rencontrer son cœur.
Je savais que vous aviez l'imagination les uns les autres. Hein. Vous pouvez réouvrir les yeux. Ça va ?
Oh, quel
merci
voyage.
Pour
voyage.
Ah,
merci pour le fermer les yeux. Là,
méditation.
Je me suis fait surprendre par le rêve qui est venu. Quoi.
Oui, pas que vous d'ailleurs. Nous aussi, je pense les auditeurs aussi. Pour continuer de rêver avec vous et de voyager, surtout la prochaine saison des Nuits culottées sur France 5, ce sera cet été. À noter également Nance, un prochain film qui est en montage actuellement et qui sortira et on suivra ça, qui s'appelle « Et je choisis de vivre ». On mettra d'ailleurs le lien sur notre site à nous et un livre de photos et de poésie. Osons la pause et c'est de vous. Nance. Moots, voilà, à chaque fois, le blond et le brun. Et on met bien sûr toutes ces infos sur notre page à nous. Le Globe Cooker, les paris du Globe Cooker sur Canal, ça, ce sera à la rentrée et à la rencontre de ces communautés étrangères à Paris. Merci messieurs,
merci
à bientôt,
beaucoup,
vos rêves, belle nuit. Dimanche prochain, nouvelle rêve partie avec l'écrivain Jean Tellet, cette fois-ci l'acteur Jacques Gamblin. Et bien sûr, oser rêver, l'imaginaire est notre plus grande liberté et personne ne peut nous l'enlever.